Un grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. La semaine dernière, nous avons vu que le jour du repos n'est pas le dimanche. Nulle part dans les Écritures, on ne trouve un passage autorisant le transfert de l'observance de repos du samedi, septième jour de la semaine, au dimanche, premier jour de la semaine. Après la mort des apôtres, une nouvelle Église qui prétendait être la continuité du véritable christianisme fondé en l'an 31, tenta d'évangéliser les païens en les forçant à se convertir. Devant la réticence de ceux-ci à se détourner de leurs croyances, de leurs fêtes et de leurs diverses observances, cette Église décida de les introduire dans son culte. Voici pourquoi les coutumes païennes l'emportèrent sur la vérité biblique. L'empereur Constantin imposa l'observance du dimanche, obligeant de surcroît les gens à travailler au cours du repos fixé par l'Éternel Dieu. Cet empereur n'avait aucune autorité pour imposer ce transfert, d'autant plus que le livre des psaumes confirme que les commandements sont éternels et établis pour toujours. Aujourd'hui, la plupart des gens pensent que le jour du repos, quel qu'il soit, est parfaitement acceptable pour Dieu. Satan a si bien accompli sa tâche que la majorité des chrétiens est persuadée que le jour de repos est différent du jour fixé par l'Éternel. Satan est bel et bien à la base de cette substitution et sa moisson est fructueuse. Le sabbat est un signe entre Dieu et son peuple, c'est ce que la Bible révèle, un signe pour ceux qui veulent vivre en conformité avec sa volonté, et le dimanche est un signe, une marque, entre Satan qui est le Dieu de ce siècle et tous ceux qu'il est parvenu à séduire. Selon la prophétie, cette marque sera imposée bientôt. La Bible nous recommande d'assembler tous les passages qui traitent d'un même sujet. Voyons ce que le prophète Ézéchiel nous enseigne au sujet de Satan. Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfaite en beauté, tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Je te précipite de la montagne de Dieu, et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ésaïe, lui aussi, décrit Lucifer. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Ce qu'Ézéchiel dit à Satan se trouve dans un message adressé au prince de Tyr, et celui d'Ésaïe se situe dans un message destiné au roi de Babylone. Lucifer, dont le nom signifie « celui qui amène la lumière » ou « l'astre de l'aurore », était plein de sagesse et parfait en beauté. Sa mission consistait à protéger de ses ailes la montagne de l'Assemblée, c'est-à-dire le trône divin, situé à l'extrémité du septentrion. Une autre mission lui avait été confiée, l'administration des millions d'anges que Dieu avait mis sur la terre. Son trône se trouvait en Éden pré-adamite et il dominait sur toute la terre. Tout alla bien, jusqu'au moment où son orgueil le poussa à se lancer à la conquête du trône de Dieu pour dominer tous les anges et la création. Dans son ambition démesurée, il voulait devenir semblable à Dieu et, comme lui, avoir un corps resplendissant, brillant comme l'éclat du soleil lorsqu'il brille dans sa force. Le Christ nous est décrit ainsi après sa résurrection, lorsqu'il eut retrouvé toute sa gloire. Lucifer réussit à convaincre un tiers des anges de l'accompagner dans son assaut du trône de Dieu et sa conquête du pouvoir. Aucune créature ne pourra jamais l'emporter sur son Créateur. Le Christ nous explique le résultat de ce grand combat en disant « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » dans sa chute, il entraîna les anges qui l'avaient suivi, et ceux-ci devinrent les démons. Nous pouvons maintenant mieux comprendre Ésaïe lorsqu'il écrivit « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. » Dès lors, Lucifer fut appelé Satan, l'adversaire, et il régna sur un grand nombre de démons. La Bible l'appelle le grand dragon rouge, le serpent ancien, le diable, celui qui séduit toute la terre. Ce verbe séduire est conjugué au présent, car aujourd'hui encore, Satan continue à séduire toute la terre. Beaucoup parmi ceux qui pensent être chrétiens sont sous sa séduction. C'est à la suite des péchés de Lucifer et de ses anges que la terre devint informe et vide. Dieu en détruisit la surface. Les péchés finissent tôt ou tard par entraîner la destruction des lieux où ils ont été commis. Ce fut le cas à l'époque du déluge. Plus tard, Dieu détruisit Sodome et Gomorre parce que leur péché était énorme. Il en fit le même pour l'ancienne Babylone. Et avant que ne descende la nouvelle Jérusalem, la surface de la terre sera consumée avec les œuvres qu'elle renferme. La Bible nous dit que les péchés établissent une séparation entre l'homme et Dieu. Dieu ne peut rester en présence du péché, voilà pourquoi, lorsque le Christ prit sur lui les péchés de toute l'humanité, il fut abandonné par son Père pendant une courte période. C'est ce qui le poussa à s'écrier « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ceci nous explique pourquoi la terre parfaite, telle qu'elle avait été créée au début par l'Éternel, devint tohu et bohu. Dieu dut renouveler sa surface au cours d'une période de 6 jours de 24 heures. Le 7e jour étant réservé à la création du sabbat, destiné à toute l'humanité. Dieu créa l'homme et la femme le 6e jour de la semaine. Le lendemain, Dieu institua l'observance du sabbat par un repos solennel. C'est au cours de ce jour que l'Éternel dut leur donner ses instructions, leur expliquer la raison de leur existence et leur faire connaître ses lois, car là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Et Paul ajoute, sans loi, le péché est mort. Satan, conscient que l'on peut acquérir rapidement de mauvaises habitudes, ne tarda pas à intervenir. Il ne perdit pas son temps, et c'est probablement le lendemain qu'il commença à convaincre de ses mensonges l'homme et la femme. Adam et Ève étaient des personnages réels et avaient été créés mortels, mais Dieu leur avait dit qu'ils pouvaient obtenir la vie éternelle à condition de ne pas prendre de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La consommation du fruit de cet arbre symbolisait le droit de décider ce qui est bien de ce qui est mal, ce qui est juste de ce qui ne l'est pas. Et l'Éternel ajouta, « Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Il est question ici de la mort éternelle. Lucifer régna sur la terre jusqu'au moment où, poussé par un immense orgueil, il voulut étendre sa domination sur tout l'univers. Voilà pourquoi il chercha à élever son trône au-dessus de celui de Dieu et obtenir autorité sur tout. Satan connaît la destinée de l'homme, qui est de faire partie un jour de la famille divine et de naître dans cette famille toute puissante, à condition de vivre en conformité avec les lois divines. Les anges, eux, sont destinés à être des serviteurs, à exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Les anges ne peuvent pas entrer dans la famille divine, cette possibilité n'est donnée qu'à l'homme. Satan souhaite donc la mort définitive, la mort éternelle de l'humanité. Il croit qu'en empêchant l'homme de devenir fils de Dieu, d'hériter toute chose, il a encore une chance d'y parvenir lui-même. Dieu indique que l'homme a été créé inférieur aux anges, mais il sera un jour placé au-dessus de tout ce que Dieu a créé, de tous les autres ouvrages de ses mains, y compris bien entendu les anges. Nous pouvons comprendre pourquoi Satan et ses démons font tout leur possible pour détruire le grand plan divin et empêcher ainsi l'homme de devenir un fils de Dieu. Avant la fondation de la terre, Dieu avait annoncé la venue d'un sauveur. Vous avez été rachetés, c'est Pierre, l'apôtre Pierre qui parle, par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Paul ajoute, Dieu qui vous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, autrement dit un saint appel, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Les deux premiers chapitres de l'Épître aux Hébreux nous révèlent clairement que, bien qu'étant inférieur aux anges, qui eux sont des êtres composés d'esprit, nous sommes cependant destinés à être au-dessus des anges, à condition que nous obéissions à Dieu. Les chapitres 3 et 4 de cette même épître nous indique que pour arriver dans le royaume de Dieu, nous devons observer le sabbat de l'Éternel qui a été fait pour l'homme. Satan convoite la destinée de l'homme fidèle à Dieu. Il est déterminé à faire échouer le plan divin en faisant de son mieux pour attirer les hommes dans les nombreux pièges qu'il leur dresse en les séduisant, afin de les détourner de Dieu, de ses enseignements, de ses lois, ce qui attirerait sur eux la mort éternelle. De plus, avant la fin de notre présente époque, il repartira à la conquête du trône de Dieu, comme cela est indiqué dans Apocalypse 12, mais cette attaque sera encore une fois sans aucun succès, et Apocalypse 12 nous donne l'ordre chronologique de ces événements. Satan est un être intelligent. Ce n'est pas pour rien qu'il est appelé le malin. Il modifie les instructions divines, donnant ainsi une apparence de vérité à ses mensonges. La Bible nous dit qu'il a un ministère. Il a donc ses églises, dans lesquelles on pratique un baptême de contrefaçon, puisque les conditions imposées par Dieu ne sont pas respectées. Il a son jour de repos, ses fêtes, ses sacrifices, ses œuvres, ses commandements, ses lois, ses instruments de culte, et j'en passe. Satan, par une séduction pernicieuse, pousse l'homme à observer des traditions contraires aux commandements divins. La semaine prochaine, nous verrons plus en détail son emprise sur les églises du monde. En attendant, rappelez-vous qu'aucun homme n'a absolument pas le pouvoir de modifier ce que Dieu a établi pour toujours.